Bonjour Jacqueline Engraaf, présidente de Femmes Solidaires, je le rappelle. Donc pour cette 16e lecture de textes de littérature féminine et féministe. Bonjour.
Oui, bonjour Odile, bonjour Tiffany et bonjour à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Eh bien aujourd'hui, nous lisons des extraits du livre de Titiou Lecoq, L-E-C-O-Q, paru en 2021 aux éditions L'Iconoclaste et qui s'intitule « Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes ». Ce livre est une tentative de lutter contre l'oublioir dans lequel les femmes sont rejetées depuis des siècles. Alors je précise, l'oublioir, c'est un terme inventé par Aimé Césaire, un célèbre écrivain et poète martiniquais du XXe siècle. Qu'on se rappelle que leur histoire n'a pas été uniforme, homogène, qu'il y a eu des mieux et des pires, et qu'on se rappelle qu'elles ont toujours écrit, peint, créé, imaginé, pensé et parlé, même si on a rarement voulu les entendre. Lutter contre l'oublioir du passé, prendre conscience de son existence, c'est aussi un moyen de lutter contre l'oublioir du futur, celui qui pourrait attendre nos propres paroles et nos cris qui ont tellement besoin de retentir au-delà de l'espace médiatique de quelques mois, c'est-à-dire éphémère, pour s'inscrire dans l'histoire humaine. Ne nous laissons pas oublier. Pour cela, il faut apprendre notre histoire. Est-ce le cas ? Nous, mes chers lecteurs, mes chères lectrices, nous n'avons pas appris tout cela à l'école. Mais pour les élèves du temps présent, qu'en est-il ? Je me suis plongée dans le tout nouveau programme officiel des classes de seconde générale, au niveau où on peut attendre un brin de complexité. Et rien, rien sur les femmes. En 1998, le colloque de Rouen posait la question « Une histoire sans les femmes est-elle possible ?» On dirait que le promoteur officiel de l'histoire en France a décidé que oui. Pour l'éducation nationale, une histoire sans femmes, ce n'est apparemment pas un problème. Pourtant, il y a des choses intéressantes dans ce programme. Il est clair qu'il a été réfléchi à la lumière des avancées historiographiques. Cela rend d'autant plus incompréhensible l'absence même de mention des femmes, alors que l'intitulé général pour la classe de seconde est « Grandes étapes de la formation du monde moderne ». Dans la formation du monde moderne, c'est tout de même une sacrée gageure de réussir à évincer les femmes. C'est d'autant plus inexcusable que le travail a déjà été fait en amont par des historiennes. L'association Mnemosyne, qui œuvre pour le développement de l'histoire des femmes et du genre, a même publié en 2010 un ouvrage passionnant, « La place des femmes dans l'histoire ». Il aide les profs qui le voudraient, c'est-à-dire qui sont volontaires et pas obligés, il aide les profs qui le voudraient à enseigner une histoire véritablement mixte et donne un aperçu de ce que pourraient être les cours d'histoire ainsi revisités. C'est une réponse à la fois scientifique et pédagogique. Dans la préface, Michel Perrault fait un parfait résumé de la situation actuelle. Elle la cite. « Les programmes ont incorporé plus aisément l'histoire économique et sociale, voire l'histoire culturelle et religieuse, que celle des femmes et des rapports de sexe. C'est d'ailleurs souvent dans ces brèches, notamment celle du travail, que les femmes se sont glissées quasiment par effraction. » Dans les manuels actuels, il y a toujours le roman national avec les grands hommes et en fin de chapitre, une histoire plus sociale ou culturelle, sous la forme d'un encart où apparaissent les femmes. Éternelles anecdotes de l'histoire. N'est-il pas surprenant de parler au masculin de mouvements nationaux, sociaux ou religieux, de guerres, de massacres, de génocides, alors que des populations entières sont concernées ? Ce que l'on demande, ce n'est pas d'instaurer une histoire des femmes à l'école, mais d'avoir enfin une histoire mixte, mettre fin à la non-mixité des programmes scolaires actuels. Vous pensez peut-être que j'exagère et que les femmes ont leur place dans les manuels. Pour regarder plus en détail ce qu'apprennent les élèves, j'ai choisi au hasard le manuel d'histoire Hachette spécial réforme du lycée 2019. Les femmes y apparaissent dans 6 pages sur un total de 277. Une double sur les femmes et la vie civique à Athènes, ensuite une double page avec Émilie du Châtelet pour évoquer le rôle des femmes dans la vie scientifique et culturelle. Et pour finir, le rôle des salons avec l'exemple de Madame de Tencin. Je rappelle que nous avons fait le portrait d'Émilie du Châtelet ici à ce micro. Donc, 6 pages sur 277. Ah non, pardonnez-moi, j'oubliais une page. C'est un style de parole, voilà, c'est pas... Pardonnez-moi, j'oubliais une page. La couverture. Elle représente un tableau où l'on voit une jeune fille de 14 ans, la marquise d'Antin, un oiseau posé sur ses doigts, parce que les filles, c'est joli, et qu'on aime mettre de belles images sur les couvertures. C'est fou, suis-je la seule à voir combien c'est dingue et révélateur de là où nous en sommes encore collectivement. Comment peut-on penser le rapport au pouvoir, ce qui est l'objectif avoué du programme de classe de seconde, sans penser les rapports femmes-hommes ? C'est absurde, mais pas innocent. L'histoire des femmes reste perçue comme un gadget, par certains, une sous-catégorie, ce qui relève au fond de la vieille idée que les femmes elles-mêmes ne sont qu'une sous-catégorie de l'humanité. Pourtant, je croyais qu'il était dans les missions de l'école de lutter contre les inégalités. L'éducation est un levier puissant que l'on n'a pas suffisamment actionné pour œuvrer à l'avènement de l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans l'histoire des femmes en Occident et le volume consacré au XXe siècle, l'historienne Marcel Marigny s'interrogeait sur la disparition des femmes écrivaines des manuels scolaires. Elle s'en inquiétait parce que l'école confirme les garçons comme seuls héritiers légitimes et future détention de la créativité culturelle. En revanche, elle enlève aux filles toute position légitime d'énonciation. Ce texte date de 1992, il y a presque 30 ans. Les choses ont-elles vraiment changé ? L'école fabrique activement de l'inégalité entre les filles et les garçons. Ceux qui pensent que changer les programmes scolaires est encore une lubie de féministes hystériques, ceux-là ne se sont jamais demandé ce que signifie de grandir avec une histoire dont nos semblables sont exclus. Qu'est-ce que petite fille on perçoit quand on ne nous raconte que l'histoire des hommes ? C'est ce qui m'est arrivé. Et ça ne me posait pas de problème puisque je n'envisageais pas autre chose. C'est maintenant, à l'âge adulte, en découvrant l'histoire de nos ancêtres, de la moitié de nos ancêtres pour être précise, que je réalise la tromperie dont j'ai été victime. La relégation de mes aïeuls me met en colère. Parce que nous sommes des femmes, notre histoire ne peut être que marginale, cantonnée à des ouvrages spécialisés, comme celui-ci d'ailleurs. Pourquoi ne pas intégrer cette moitié de notre histoire commune dans les programmes ? Il ne s'agit pas simplement d'accorder une place aux femmes dans l'histoire, comme une page sur Émilie du Châtelet dans un manuel. Il s'agit de nouer ces deux histoires, il s'agit d'inclure. L'un des objectifs actuels du féminisme, en dehors de l'égalité, c'est de déviriliser le monde. Déviriliser donc également l'histoire pour laisser de la place aux autres et peut-être en fin de compte parvenir à trouver notre unité. Pour cela, il faut avoir le courage de s'intéresser sur nos bornes historiques et sur nos modèles. Notre histoire doit marcher sur ses deux jambes. Elle doit également inclure l'histoire des non-blancs. Quand on dit que les femmes françaises ont obtenu le droit de vote en 1944, on fait une erreur. De ce suffrage étaient encore exclues les Algériennes musulmanes. On dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est vrai, mais ça n'est pas inéluctable. Il dépend de nous de ne pas coller au point de vue des dominants. Il s'agit d'un choix. Notre histoire commune est beaucoup plus vaste que celle qu'on nous a apprise à l'école. Les femmes ne sont pas un accident de l'histoire, une donnée négligeable. Leur exclusion du pouvoir politique est en soi un sujet historique qui mériterait une large place dans les programmes. C'est important, c'est essentiel. Comme l'a écrit Geneviève Fraisse, les sexes font histoire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, être un homme ou une femme n'est pas un invariant biologique. Être femme ou être homme, dans chaque culture, est le résultat de situations où se mêlent biologique et social, où le biologique est quasiment indémêlable du social, avalé par lui. La société nous inculte très tôt la mise en scène de ce que c'est d'être une femme ou un homme. Enseigner cette histoire, c'est donc apprendre que rien n'est gravé dans le marbre, même le sexe. Tout peut changer. Chacune peut inventer sa manière d'être. Cette histoire nous offre une immense liberté. C'est même à cela que sert l'histoire. Elle aide à changer le monde, dans la mesure où elle est l'art de se souvenir de ce dont on sait on en est capable. L'histoire permet d'ouvrir le champ des possibles. Et comme le disait l'anthropologue Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer le monde. D'ailleurs, rien d'autre n'y est jamais parvenu. Alors, les réticences à intégrer ce sujet au programme officiel sont peut-être dues à la peur de faire une histoire militante. L'histoire des femmes est-elle militante ? Autant qu'une autre. L'histoire officielle, celle des manuels dont les femmes sont exclues, est-elle réellement objective ? Pourquoi a-t-on l'impression qu'introduire les femmes en histoire serait une décision politique alors que c'est les avoir exclues qui étaient réellement politiques ? Un travail d'homme qui reconduit la domination masculine passe rarement pour militant et ne s'affirme quasi jamais comme tel. Le discours dominant et officiel paraît neutre, il ne l'est pas. Mais il parvient, par sa position majoritaire, à faire reconnaître ses choix pour de l'objectivité. Pourtant, on peut se demander comment le fait d'exclure la moitié de la population française des livres d'histoire peut être une preuve d'objectivité. N'est-ce pas l'inverse ? Pendant longtemps, on a pu se justifier en expliquant que c'était à cause des faits. Les femmes n'avaient pas participé à l'histoire. C'est pour ça qu'on ne parlait pas d'elles. J'espère qu'à la fin de cette lecture, je n'ai plus à vous démontrer en quoi c'est absurde. Les femmes ont fait l'histoire, elles ont régné, elles ont gouverné, combattu, elles ont milité, écrit, crié parfois. Elles n'ont jamais été les spectatrices d'un monde que les hommes dirigeaient. Ça, c'est une fable historique. Même quand elles ont été exclues des sphères du pouvoir, elles ont continué à résister. C'est aussi cela, notre histoire commune. Et l'histoire des femmes, ce n'est pas que l'histoire des femmes. C'est également la vôtre, messieurs. Vous êtes, vous aussi, les descendants de ces femmes qu'on a oubliées et réduites au silence. Ne les laissons pas disparaître une nouvelle fois. Elles doivent exister dans notre mémoire et dans notre histoire. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez vu que c'était en fait la conclusion du livre que j'ai lu. Et, le prochain rendez-vous, Odile, ça sera le mardi 7 juillet à 9h30. Merci de m'avoir écoutée.
Merci Jacqueline, à bientôt.
À bientôt.